c'est un peu de l'improvisation. Hein, donc, je voudrais d'abord remercier déjà les deux intervenants et peut-être effectivement proposer à Mirka de puisque j'ai eu le malheur quand même tout à l'heure de lui couper la parole alors qu'elle voulait intervenir, et d'enchaîner puisque c'est je pense que c'était sur le problème du référent, le fait qu'on puisse poser une question de référence qui soit plus problématique ici ou ailleurs, qui te faisait réagir.
Non, en fait, moi c'était ce qui me faisait réagir, c'était que à un moment donné, je commençais à avoir l'impression qu'on parlait du Volodine se dit d'écrire dans une langue étrangère, et puis petit à petit, on passait d'une langue étrangère au russe. Et ça commençait à arriver au traduit du russe en français et on retraduit en russe. Et c'est ça qui m'a fait un tout petit peu réagir. Parce que je me disais, mais il n'y a pas que du russe. Il y a d'autres langues, il y a d'autres univers, il y a d'autres choses. Donc c'était pour ça que je voulais intervenir absolument ce moment-là. Mm-hmm. Mais sinon, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, en fait j'avais traduit des anges mineurs, c'est pour ça que je suis ici.
Est-ce que tu peux rappeler en quelle année
C'était paru en 2005 en République tchèque, et quelques temps plus tard j'avais fait une petite intervention à un colloque où je me suis justement posé la question aussi sur ces traductions. Donc j'avais réfléchi sur ma traduction du français en tchèque, mais j'avais également pensé un tout petit peu à justement ce problème de Volodine déclare d'écrire en français une littérature étrangère, donc comment un traducteur doit réagir à ça. Et en fait j'en suis arrivée à la conclusion qu'en fait le traducteur est posé devant le problème de en fait traduire du français une langue étrangère. Donc on a, en fait, j'ai repris un petit peu la phrase de notre corpus pour arriver qu'en fait qu'on est vraiment confronté à deux problèmes, c'est-à-dire d'un côté la traduction en fait se défend toujours ou se refuse toujours à une traduction, mais là en fait on a un double problème dû à la fois l'étrangeté de la langue d'Antoine Volodine ou de Lodi Bassman dans le français. Et donc on doit, en fait, on n'a pas un obstacle, mais on en a deux. Et donc le traducteur est obligé de passer deux obstacles. D'abord l'obstacle classique d'une œuvre dans une langue étrangère, mais en plus le deuxième obstacle de cette étrangeté dans la
français.
Langue étrangère. Voilà. Enfin, dans le français, pardon.
Dans le français.
Voilà, donc c'est ça, en fait, que je voulais dire tout à l'heure, à tout prix.
Ouais, mais juste une question quand même pour revenir à une problématique qu'on posait. Il me semble que la question n'était pas tellement le référent russe que le référent soviétique. Et j'imagine que en République tchèque, c'est un référent qui n'est pas indifférent non plus au niveau de la réception. Est-ce que...
Moi, il me semble... Enfin, je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas du tout aussi fort qu'en russe. C'est-à-dire que c'est... Évidemment, tout ça, c'est notre histoire aussi, mais elle n'est quand même pas si forte.
On a été très fort.
Oui, mais donc je pense que quand on traduit des anges mineurs, je pense pas qu'on a besoin de se poser vraiment, bon, consomol, on le traduit par consomol et on s'en occupe pas plus que ça, puisque on sait ce que ça a été, on sait que ça a existé, mais on va pas chercher chaman bolchevique, bon, c'est un chaman bolchevique, voilà.
Juste une remarque. Je ne voulais aucunement m'accaparer Volodine pour le renfermer dans le contexte russe.
Non,
Volodine, ça appartient à tout le monde, donc on peut
ou à personne.
Mais je voulais...
à toutes les langues, et donc je ne réclame absolument pas l'exclusivité russophone de lecture volodienne.
Non, mais bien sûr, mais voilà, juste ça commençait à se rétrécir vraiment sur ce point-là. Mais
parce que c'est la musicalité. Enfin,
c'est pour ça que je pensais que c'était plus...
Oui.
C'était à propos à ce moment-là, et voilà. Anne, je pense que vous parlez.
Anne.
Moi, c'est une question pour Marianne, en fait, ce qui sera aussi une façon de décaler les questions, peut-être. Moi, j'ai lu Contagion et j'ai lu La confrérie des mutilés. Ouais. Bon, malheureusement, en traduction, mais je vais essayer de me les procurer en anglais. Mmh. Et est-ce que tu trouves que la traduction de Claro est bonne?
Oui, beaucoup. Oui. Il y a fait Condat.
Alors, c'est pas la peine que je le dise.
Exactement, c'est pas du tout la peine. Il y avait des petits problèmes avec la traduction, même de Claro, parce qu'il y a dans Contagion, il y a une liste qui a beaucoup de types de fils barbelés. Et en Amérique, on a, je ne sais pas, 400 types de fils barbelés. Et on a tous les noms. Et en France, on a, je ne sais pas, deux noms pour le. Et donc, il a commencé à le faire. Et je pense que dans mon liste, il y a.
Ça, c'est très suggestif, ça.
Oui, c'est très suggestif. Oui,
ça en dit long.
Oui.
200 sortes de barbelés.
Non, 700.
700.
Ouais. Avec des noms différents. Dans mon liste, j'ai je ne sais pas, 160, quelque chose comme ça, mais Clara, il arrive de faire 60 à peu près. Donc, si vous voulez les autres noms de fils barbelés, il faut aller à l'édition américaine.
Poser ma question, mais j'apprends quand même cette sorte de barbelisme.
Voilà.
Ouais. Bon, ma question, c'est que après avoir lu ces textes de toi, moi j'ai été très frappée effectivement par la parenté, par certains aspects, avec l'univers volodinien, et je me suis demandé si, parce que tu as parlé dans ton intervention, tu es revenu à plusieurs reprises sur le fait que il fallait considérer l'ensemble du projet. Hein, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas lire tel ou tel livre
pour
les autres.
Ouais.
Alors je pense que d'abord, tu vas tout traduire tout plus tard. Sauf que Lady in the Jungle et Minor, déjà traduit. Mais donc ma question, c'est est-ce que tu as rencontré l'œuvre de Volodine après avoir écrit tes livres ou comment ça s'est fait? Parce que c'est très étonnant de voir, voir une telle proximité de thèmes, d'ambiance, enfin, il y a des blattes, il y a tout ce qu'il faut. Hein.
Ouais.
Donc voilà, je voulais savoir si c'était une convergence comme ça, comment ça s'est passé?
Ça, je ne suis pas sûr. Je crois que j'ai rencontré les livres de Volodine. Après, j'ai écrit deux ou trois livres, mais pas beaucoup. Et oui, ça m'a beaucoup influencé. Et j'ai senti un lien immédiat avec ses œuvres. Et même avec Schlum, c'était, j'avais l'impression, quand j'ai lu, que c'était quelque chose que je voulais écrire moi-même. Donc, je l'ai fait en traduction.
Voilà. Moi, j'ai une question pour enchaîner là-dessus. Je n'ai pas encore le volume, mais je vais me précipiter. La question que ça pose, la question de l'influence de Volodine, que moi, je n'ai jamais eu l'occasion de me poser avant, c'est la question justement de l'élargissement potentiel de cette communauté. C'est une question qui a déjà été posée à Volodine. Le fait que, évidemment, le système post-exotique, c'est un système clos. Et comment, quand on écrit une œuvre qui a une certaine parenté, comment on se situe par rapport à ce système? Est-ce qu'il y a des passerelles et de quel ordre elles sont?
Pour moi, ce n'est pas exactement un système clos. Il y a des choses, et comme j'ai dit dans mon petit truc là, chaque fois que je lis un autre livre de Volodine, ça commence à changer des autres. Donc c'est un peu comme un rhizome. Et chaque fois qu'on a un nouveau livre, ça change des choses. Et si on ajoute, si j'ajoute mes propres livres, ça va changer des choses aussi pour moi et pour ma réception de Volodine.
Donc vous considérez quand même que, de votre point de vue, il y a une interaction entre vos livres et les siens alors?
Pour moi, oui. D'accord. Oui. Pour Volodine, il faut lui dire, demander. Mais je suis aussi dans un univers tout à fait un peu différent quand même, parce que je viens d'un univers mormon, quoi, et c'est un univers avec les autres choses qui se passent. C'est pas exactement le post-exotisme, mais c'est parenté. Voilà.
Moi, je voudrais demander, on a entendu un peu ce qu'il en est de la réception de Brian qui détermine l'idée qu'il y a quand même des correspondances qui s'établissent avec des écrivains aux États-Unis. En revanche, en Russie, apparemment, pour le moment, ça n'a pas encore... On peut pas encore parler d'une véritable réception, ou en tout cas les effets sont encore difficiles à percevoir. Est-ce que tu peux nous parler de la réception de l'œuvre en République tchèque depuis ta traduction, parce que
le problème, c'est que je peux, mais ça sera à peu près aussi riche que ce qu'avait dit Valérie tout à l'heure. C'est-à-dire que le livre est sorti en 2005. Il y a quelques articles, il y en a peut-être plus que deux, mais bon, il y en a peut-être cinq qui ont... En fait, il y a un article qui est sorti bien avant la traduction. C'est une universitaire qui avait découvert, Antoine Volodine, qui avait découvert des anges mineurs, mais qui a dû même, je pense, assez mal le lire parce qu'elle avait traduit le titre de façon très, très étrange. Et que maintenant, bon, quand le livre est sorti, il y avait eu deux, trois articles. Je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est que Antoine Volodine est venu à Prague. Donc il y a eu quelques rencontres, quelques entretiens dans les médias. Mais en fait, je n'ai pas remarqué un intérêt grandissant. Mais par contre, il y a une autre chose, c'est que j'ai l'impression que l'œuvre se fait son petit chemin tout seul, un petit peu en dehors des médias, dans le sens où, par exemple, j'ai appris très récemment qu'à l'université à Brno, il y a un prof qui avait mis au programme la traduction des anges mineurs parce que ça l'intéressait du point de vue narratologique. Pas du tout au niveau de l'univers volodinien, mais la façon de découper le roman l'intéressait. Donc il l'a mis au programme pendant une année. Ensuite, il y a trois mois, j'ai appris que quelqu'un avait fait une lecture des anges mineurs à la radio. Mais de nouveau, en fait, il y a eu la lecture et puis rien autour. Donc en fait, c'est un petit peu comme des cris dans le noir, mais avec pas de réaction des critiques. Voilà.
Thierry.
Sur cette question-là, si je peux ajouter juste quelque chose, puisque Antoine devait venir à Brno, on a organisé, il y a un club de lecture à l'Alliance française, donc il y a eu une soirée autour des anges mineurs. Donc, ce sont des gens qui se réunissent tous les mois, qui lisent un livre en français et qui viennent en discuter en français. Et la réaction des quelques personnes qui étaient là était entre l'effondrement et l'étrangeté. Ils étaient vraiment avides d'avoir de questions. Ils ont trouvé ça très intéressant en général. Ça a accroché, mais ça a accroché en même temps avec cette étrangeté qui laisse les gens un peu. Qui pose des questions. C'est un peu l'impression générale qu'on a pu ressentir.
Si je peux rajouter, c'est vrai qu'on a parfois des réactions de lecteurs, mais on n'a vraiment pas des réactions de critiques littéraires. On dirait que là, de ce côté-ci, c'est resté vraiment sans écho. Par contre, j'en avais parlé avec Anne, c'est vrai que la réception des lecteurs est très étrange parce que j'ai l'impression qu'au moins les lecteurs tchèques en fait, font complètement l'impasse sur le politique dans le livre. Il me parle des problèmes de société, de problèmes écologiques. Enfin, comprendre le discours de Varvalia Lodenko comme un discours écologiste ou écologique, c'est quand même étonnant. Dire « Ah, c'est une horreur, là, cette planète dévastée, il a raison, il faut combattre ça ». Mais l'écologie est complètement... cache le politique. Bon, ça, c'est deux ou trois lecteurs qui m'ont fait cette remarque-là. Donc là, j'étais assez étonnée. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il faut bien y mettre les Komsomol, les bolcheviks et tout ça pour que ça y reste bien dans le texte. Mais bon.
Moi, je voulais poser aussi une question. Il y a Brian qui a fait référence tout à l'heure au réalisme magique. Ouais. Qui pouvait être dans la culture américaine quelque chose qui permet d'avoir une réception justement sur, enfin de comprendre aussi un mode d'étrangement enfin, du texte, enfin, du rapport à l'histoire comme rapport fantasme, comme écriture fantasmatique de l'histoire. Moi, j'avais essayé de réfléchir dans un article sur la façon dont, d'une même façon, il y avait une écriture de l'histoire qui pouvait déjà être une écriture fantasmatique en Russie, je sais pas, chez un Platonov ou chez un Bulgakov, enfin, dans Le Maître et Marguerite, enfin, le fait de ne pas hésiter à être dans des dans une forme de fantastique. Et voilà, enfin, je voudrais savoir justement quelles sont vos impressions par rapport à cette réflexion sur quelles pourraient être ici et là les conditions justement pour qui permettraient de faire des correspondances aussi avec ce qu'on a l'habitude de lire dans les cultures respectives.
C'est difficile parce qu'on cherche toujours un moyen d'entrer dans le texte. Mm-hmm. Mais pour moi, si on essaie d'entrer dans les textes d'Anton Volodine avec magic realism, le réalisme magique, on n'entre pas. On est dans un autre texte et ça marche pas exactement et on a envie de lire Gabriel Garcia Marquez et voilà, c'est ça. Et à cause de ça, je crois que on ne rend pas service à ces textes si on a des contextes qui préexistent les textes. Il faut, c'est un peu plus dur, mais il faut un peu plus difficile, mais il faut commencer avec l'idée que ce qu'il fait Volodine, c'est ce qu'il fait. Oui, singulier. Ouais.
Tu voulais réagir, Valérie?
Enfin, non, c'est très intéressant ce que Brain a énoncé déjà, la manière dont l'œuvre fonctionne en intégralité et se change, se modifie. Donc, il y a un petit danger d'éclater. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, de saboter la réception si on casse ça soit dans la science-fiction, soit dans réalisme magique, soit réalisme post, je sais pas. Mais ça exige vraiment une énorme préparation pour lancer tout d'un bloc, plus la critique qu'on n'a pas encore, enfin, en tout cas nous. Et étant donné qu'on est dans linéarité temporelle, quand même, il faudrait commencer par un ouvrage.
Oui, oui.
Et
oui,
donc, aux États-Unis, on a commencé par quel ouvrage ?
Nom des singes.
Nom des singes. Ouais. En République tchèque.
En fait, on a commencé par Balbutiard, mais qui est passé complètement inaperçu parce que tout au début des années 2000, il y a une étudiante en première année de la fac qui a écrit une nouvelle, qui a traduit une nouvelle, mais bon, personne n'a parlé.
Et après
des anges mineurs, mais qui a eu dans la critique un écho quasiment
aussi des anges mineurs.
Voilà.
Mais Balbutiard, c'était un texte court, c'était pas une édition indépendante, si?
C'était dans un recueil de nouvelles.
Dans un recueil de nouvelles.
D'accord. Édition universitaire. Travaux de traduction d'étudiants, il y avait une vingtaine de nouvelles traduites par 20 étudiants.
En fait, c'est justement la maison d'édition qui organise également la rencontre. Il y a une rencontre tous les ans de 31 écrivains d'un pays. Et là, cette année, justement, c'est la France. Mais ils organisent également des recueils de nouvelles d'un certain pays à ce niveau-là. Donc, c'est une maison d'édition officielle qui travaille avec la fac, mais ça n'a eu aucun écho.
Simon ?
Ouais, on rejoint un peu ce que disait Lionel en introduction, fait avec la réception, sa première réception de Volodine à partir des outils, mais sa lecture du nouveau roman. Puis je pense que bon, ça se construit un peu à partir de nos lectures, mais également nos modèles théoriques, comme il y a des questions de la narratologie avec Frank Wagner, qui, la narratologie à l'origine, de base, n'était plus suffisante pour s'attaquer, dans le fond, en quelque sorte, à l'œuvre. Et je pense que l'œuvre, dans le fond, participe à justement développer ses propres ses mises en fiction, mais je pense que même nous, ça nous conduit à remodeler en fait nos propres modèles théoriques et à réouvrir en fait cet univers sous d'autres perspectives. Enfin, c'est plus vraiment qu'une question.
Peut-être que. Non.
Thierry?
La question qui pourrait se poser, enfin, je sais pas, j'ai envie de recentrer sur la traduction.
Oui.
C'est l'idée de la difficulté particulière de traduire le post-exotisme.
Pour commencer par rapport à ce que disait Valérie Kistoff tout à l'heure, quand il a parlé de la disparition de Pérec, et qui est un texte certes difficile à traduire, mais qui en même temps, dans la mesure où il y a une consigne extrêmement précise, d'une certaine façon, ça guide la traduction, même si ça ne simplifie pas la vie, je le reconnais. Alors moi, je voudrais savoir, et la question s'adresse à tous les trois, de quel ordre est la difficulté de traduire Volodine, étant entendu qu'on ne va pas reposer le problème de l'aura des mots, c'est-à-dire de toutes les connotations qu'il peut y avoir autour des mots, et qu'on a un petit peu traité tout à l'heure.
Dans Bardo or not Bardo, peut-être c'est un livre qui présente le plus de problèmes techniques, instrumentales, parce qu'il y a des jeux de mots surréalistes qui doivent être répercutés autrement, et donc notamment pauvre comme une forme, mourant, quand on lui lit des cadavres exquis surréalistes, il entend des slogans révolutionnaires, il dit, bon, déjà, pour que ça sonne, il faut procéder par le rapprochement phonétique, par la recherche de ce qui peut jouer de la même façon dans une autre langue. Et dans le même livre, d'ailleurs, à la fin, quand donc deux bons hommes s'amusent avec le jukebox, là aussi, il y a, comme dit l'autre, des jeux de mots en langue crypte qui nous balancent. Et donc... Et l'autre essaie de lui traduire, et ça aussi, il y a un problème, enfin, technique, instrumental, même peut-être plus grave que le problème des cadavres exquis, parce que là, on voit où ça aboutit, tandis qu'avec le jukebox, on ne sait pas ce qu'on devrait privilégier. Avec les slogans révolutionnaires, en tout cas, il me semble qu'il faut privilégier l'apport contestataire pour aboutir au message. Tandis que là, on ne sait pas ce qu'il faut reprocher de quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ce livre présente peut-être le plus de problèmes de ce genre-là que d'autres, notamment avec toutes sortes d'allitérations, le jeu, Bardo de la Méduse, Rado de la Méduse, toutes sortes de jeux, de mots. Qu'il faut essayer de rendre dans la langue d'arrivée. Non ?
Oui, il y a le gros. Enfin, pour moi, il y a vraiment le très grand problème des jeux de mots. Parce que, bon, là, comme je suis en train de travailler sur la Chaga des Sept Reines Sirènes, là, je pense que c'était Pierre Ouellet qui avait parlé des clairs qui n'aiment pas l'obscurité, mais il y a déjà tous les mots, tous les noms propres, etc. Donc, ça, c'est vraiment. Presque le pire, mais après, pour moi, il y avait aussi le problème de syntaxe, parce que je pense que c'est aussi beaucoup dans la syntaxe qu'on retrouve cette étrangeté que Volodine veut mettre dans ses œuvres, et en français, la syntaxe est très, très, très fixe, très stricte d'une certaine façon, et je ne sais pas comment c'est en russe, mais en tchèque, on peut beaucoup, beaucoup jouer avec la syntaxe. Donc, en fait, le problème qui se pose à un traducteur en tchèque est comment traduire cette syntaxe qui est détournée sans que ça fasse gallicisme, sans que ça fasse mauvaise traduction, enfin, pour que ça soit à la fois assez heurtant pour qu'on voit qu'il y a une étrangeté sans que ça fasse mauvaise traduction. Pour moi, c'était quasiment ça le plus gros problème, en fait.
c'est pas la même chose en anglais pour le syntaxe, parce que ça peut se marcher, ça prend du temps des fois, mais ça marche. Mais pour moi, le problème le plus important, c'est que l'étrangeté des livres doit être préservée.
Oui,
et ça prend du temps de le faire, et de le faire dans un moyen, comme tu as dit, que ça a l'air d'être...
Ouais.
En erreur, quoi.
Ouais.
Ouais. Mais il y a aussi des problèmes tout à fait bêtes qui m'embêtent. Je ne sais jamais qu'est-ce que je vais faire avec des mots qui sont en anglais dans le texte.
Ah.
Et ça, c'est très différent si on est en train de lire un texte français et on voit des mots en anglais. Et je suis toujours, je pense, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais traduire des mots en anglais, en français. Je les laisse souvent, mais de toute façon, j'en pense beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bête. Ouais.
Si je peux ajouter, bon, j'en ai parlé beaucoup avec Antoine, donc il est au courant, mais par exemple, en tchèque, on a eu un gros problème qui n'est presque pas un problème de traduction, mais qui est un problème plutôt de éditorial, entre guillemets, dans le sens où en tchèque, des noms féminins, enfin des noms de famille féminins ont toujours une terminaison par rapport à un nom masculin, qui en fait est la terminaison russe, qui est en fait la terminaison d'un adjectif de possession, puisque la femme appartient soit à son père, soit à son mari, entre guillemets. Et donc, en fait, et on fait ça avec tous les noms. Donc, que ce soit une femme tchèque, slovaque, russe, française ou chinoise, en fait, Madame Bovary va devenir Madame Bovaryova, puisqu'elle appartient à son mari. Et donc, le gros problème, c'était pour moi, c'était clair qu'il ne fallait pas faire ça, parce que ça détruirait l'étrangeté de l'œuvre, parce que Volodine fait en sorte que les noms se combinent, un certain nombre de syllabes, etc. Mais pour admettre ça à l'éditeur, c'était vraiment... des heures et des heures de combat, et il a dit bon d'accord, alors pour ce nom je suis d'accord, mais les autres, et c'était vraiment quasiment nom par nom qu'on a bataillé, et quand c'était enfin fini, il a dit ben, quand même au moins Sylvie Gironde, on pourrait au moins Sylvie Gironde lui laisser une idée, mais non, puisqu'on l'a pas fait pour tous les autres, on va pas le faire pour Sylvie Gironde et
Girondova,
ben oui, Sophie Girondova. Mais ce qui est drôle, c'est que vraiment cette bataille était très très ardue avec l'éditeur, mais les lecteurs, ça ne les a absolument pas gênés. Donc c'était plutôt une bataille d'institution plus que de réception.
Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, et je me demande si ça participe pas aussi peut-être à son petit niveau, hein, mais d'une certaine peut-être prise de conscience, parce qu'actuellement j'ai l'impression qu'ils acceptent il y a plus d'étrangers qui arrivent en République tchèque. Que pour les non-étrangers, ils acceptent maintenant certaines déviances à la règle et que même la littérature peut avoir peut-être un impact par rapport à ça, très, très faible, hein, mais qui...
D'émancipation féminine.
D'émancipation
féminine. Ouverture à l'étranger. Ouverture à l'étranger que nous sommes, nous, quand on n'a pas de robin.
Concernant les points d'interrogation, ou l'absence de points d'interrogation dans les phrases interrogatives, Non. Je prévois déjà des longues discussions. Si c'est une question, il faut mettre un point d'interrogation. Mais il n'y en a pas dans l'original. Eh ben, je prévois déjà... Ça, c'est très, très, très répandu, ça.
Ça, je pense qu'en littérature tchèque, on a l'exemple de Hrabal qui fait des phrases sans ponctuation. Et puis, on peut dire les traductions de Céline. Donc là, on est tranquille. Mais je sais pas.
Tous ces problèmes de typo ont déjà été posés dans les années 60-70 avec les auteurs du nouveau roman. Donc il faut quand même prendre des protocoles.
En France?
Oui, mais ils ont été tracés, ces opéras.
Oui, oui.
Pas tous.
Claude Simon. Il y en a beaucoup.
Claude Simon, il y avait
les questions sans
deux romans traduits.
Oui.
Le fait d'être... traduit et publié ne veut pas encore dire être connu. Et
encore moins.
Penser, repenser, remâcher et ressorti.
Les éditeurs n'ont pas gardé des petits protocoles.
De toute façon, ça ne pose pas beaucoup de problèmes pour les lecteurs américains. On est d'habitude. Donc, oui, il y a des autres problèmes, mais pas ça.
Audrey.
Moi, je trouvais intéressante, parce que tout simplement parce que c'est des questions sur lesquelles je travaille, de voir surgir tout à coup dans une réflexion sur la traduction la question du genre. Ouais. Donc, c'est pas ce à quoi on pense totalement. Et je me demandais, vous évoquiez l'influence de l'onomastique des noms des personnages sur la réception de l'œuvre qui l'orienterait du côté du réalisme magique, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans la traduction, d'autres problèmes spécifiques que vous rattachez aux genres, qui pourraient influer sur le rattachement du texte à un genre quand vous traduisez?
Oui, je crois. Pour le lecteur américain, on est très concerné avec le genre des choses. Donc, ma femme, elle écrit de la fiction aussi, mais tout le monde pense que c'est de la poésie. Et la réception, c'est très, très différent si on pense que c'est la poésie ou c'est de la fiction. Donc, les lecteurs américains, ils ont un peu obsédé avec genre et ils veulent bien faire des distinctions. Mais je crois avec Volodine aussi, si on commence avec dans une maison de science-fiction, on a des lectures qui sont tout à fait différentes des lectures de la littérature. Mais pour la traduction, on peut... Oui, c'est ce qu'elle a fait Linda Coverdale quand elle a essayé de faire de Nombre de Singes un truc réaliste magique.
Dans ce cas-là, c'était par les noms propres que ça fonctionnait, c'est ça, surtout
C'était les noms des rues, je crois, c'était les autres choses aussi. C'était seulement les petites choses, c'était pas grand-chose, mais en total, ça, c'était grand-chose. Et pour moi, ça, le problème, c'est que c'est un problème de surdétermination, il ne faut pas surdéterminer le texte. Et voilà, c'est ça. Si on peut laisser un peu d'espace pour qu'on n'ait pas décidé en avant qu'est-ce qu'il y a du genre dans le texte. On doit avoir un espace qu'on peut avoir quelque chose qui commence à se grandir et prendre sa propre forme. Je sais pas.
Oui, il me semble que le propre de ce texte-là, c'est de poser ces questions, en fait, de maintenir la limite visible toujours.
Exactement, oui. Oui, je suis d'accord.
Est-ce que Minor Angels, il est sous-titré Nara,
Je m'en souviens plus.
Naras.
Ouais. Oui.
Naras.
Naras. Avec un C.
Naras.
Ouais. Non, c'est pas ça.
Ouais. Enfin, c'est le même mot en fait. Ouais, exactement, mot, mais ça. Prononcé Naras. Ouais, ouais. Mais c'est ça.
Ouais, tu dis en fait. C'est ça.
Naras.
C'est ou Narax ou c'est Narat, je ne sais pas si c'est un C ou non, mais oui.
Et
ça, c'est pourquoi il a fait une explication, Jordan Stump, dans son introduction de ce qui est un Narat, donc, parce que, pour préserver le mot, oui.
C'est-à-dire que la petite introduction de Volodine qu'on a là a été traduite aussi, c'est ça?
Non, c'est...
J'appelle Nara, des textes...
Je crois que ça, c'est dans l'édition américaine. Je crois que non, ça doit être... Ah bon? C'est ça, mais il y a aussi un truc de Jordan Stump qui a fait...
Il y a un truc du traducteur de...
Une introduction.
Oui, oui.
D'accord.
Oui, oui.
Et cette question des genres... moi, il ne me semble pas que Katia Dmitrieva ait eu des problèmes pour faire accepter... Narats en russe. Je me souviens pas qu'elle m'ait parlé de discussion avec l'éditeur.
Elle m'en a pas parlé non plus. Mais...
S'il y avait eu un problème, je pense que j'aurais su.
Mais justement, on avait une longue discussion avec le traducteur qui a déjà terminé dans Dog, le traducteur de Pétersbourg. Donc ça devait sortir, d'ici 2-3 mois. Enfin, peut-être deux mois. Et donc, lui, il a sa version de traduire ses sous-titres.
Et c'est très curieux de voir la différence d'approche. Si Katia Dmitrieva, elle transcrit, il y a narrate, donc lui, il donne la version russe, mais russe. Par exemple, pour narrate, il dit skazeny, ce qui est déformation de skaz, narration, mais en ancien russe, et skazka, le conte. Et donc, on voit déjà la différence d'approche. Lui, il creuse et retrouve dans la langue d'arrivée, dans le russe, ce qui peut faire le même effet. Et donc, la traductrice des anges mineurs, elle a transcrit en s'adressant à un public cultivé qui sait ce que c'est narration, narratif. Ce mot est rentré en russe, je ne sais pas, il y a 10 ans. Donc, voilà.
En tchèque, en fait, moi j'avais juste, pareil, transformé le mot nara, j'avais mis narate, je l'ai mis narate au singulier, narate au pluriel. Mais je pense que dans la critique tchèque, le mot narate existe quand même depuis beaucoup plus longtemps. Mais peut-être.
Et donc on comprend. Quand on dit narration, on comprend.
Je pense que par exemple, un lycéen ne va pas forcément comprendre sans chercher dans un dictionnaire de noms d'origine étrangère.
Mais un adulte. Qui n'est pas forcément universitaire.
Ça dépend de son niveau d'études, s'il comprendra ou pas. Pour Chaga, j'avais décidé de transformer légèrement Chaga, mais j'avais laissé quelque chose de très rapprochant aussi, parce qu'on a Saga, on sait que ça existe, il n'y a aucun problème. Mais par exemple, pour Entrevoûte, je continue à me creuser la tête, qu'est-ce que je pourrais faire avec Entrevoûte. Et en plus, après la communication qu'on a eue ce matin, ça va être encore plus difficile entre voûtes
et envoûtées,
et complicité, là, je vais être embêtée.
Entre vous,
donc je pense que ça dépend beaucoup des mots qui existent déjà dans chaque langue différente, en fait, à partir du moment où ça existe.
Ça existe ou
c'est connu.
Ça n'a pas existé. Si on invente, ça aussi c'est un procédé un peu radical, mais on ne peut pas exclure la possibilité des néologismes ou des apax qui fonctionneraient bien. Ça peut arriver.
Mais en fait, je pense que le problème n'est pas tant d'inventer un néologisme, puisque le tchèque se prête très très bien à inventer de nouveaux mots. Mm-hmm. Le problème, c'est plutôt de trouver un mot qui sonne bien et qui à la fois exprime le maximum de
Évidemment.
Ce qu'exprime le mot.
Mais parfois, on est confronté à un problème que ce mot-là n'existe pas. Enfin, donc, il faudrait l'aider un peu à naître. Un petit coup de pouce. Et
alors, qu'est-ce que vous pensez de traduire la leçon 7 du post-exotisme sur les vocables spécifiques du post-exotisme?
Ça serait difficile. Mais dans une façon, on ne veut pas commencer avec la leçon 7.
Bien sûr.
La leçon 11. Ouais.
Ça serait au bout de... Quand il y aura 10 volodines de traduit, 3 Bassman, on pourra peut-être s'attaquer à la leçon 11. Il ne faut surtout pas le faire.
C'était une plaisanterie. Après, 6 ou 7 livres, ça va marcher, mais ça va être très difficile de traduire, mais très, très amusant aussi.
Oui. Ouais.
Il y a aussi cette musicalité 7, pièce 7, bardique 7, pièce 7. Enfin, là, je retrouve des petits échos comme ça, je les enregistre pour l'instant et je les laisse en jachère parce que je sais pas, en tchèque, 7, pièce 7, est-ce que vous pourriez envisager quelque chose qui pourrait sonner?
Je vais chercher quand je vais arriver à ça. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Pour l'instant, je me bats avec les 7 reines sirènes, qui est pas mal non plus.
Déjà, il y a le problème formel, c'est le nombre de chapitres, le nombre parfois de lignes. Et là, on va pas creuser là-dessus parce qu'on retombe dans le formalisme pur et dur, passible de l'article 58 du Code pénal. Mais il y a quand même cette musicalité. que je retrouve peut-être à tort dans plusieurs passages, et c'est comme c'est pas par hasard qu'il est très souvent question du théâtre et de l'opéra surtout, et donc tout fonctionne comme une certaine répétition sonore, phonétique, même rimée. Enfin, j'ai donné juste un exemple, 7 pièces, 7 bardi, mais il y en a des dizaines.
Cette reine sirène, on retrouve la même chose. Mais bon, là, je pense aussi qu'il faut, bon, même si ça peut paraître un peu peut-être irrévérencieux envers l'original, etc., je pense qu'il faut se mettre à l'évidence que de toute façon, la traduction est l'appauvrissement. On peut pas tout transmettre. Donc, on peut. Tu n'es pas d'accord?
Non, je sais que l'enrichissement, mais c'était très impertinent.
Oui, non, mais on peut essayer de transmettre là où on peut, et là où on ne peut pas, on ne peut pas. Et par contre, on peut à la limite essayer de l'enrichir ailleurs.
Oui, je dirais autrement, on ne doit pas tout trahir.
Voilà,
donc il faut qu'on sauve.
Il faut faire le maximum. Chose. Et éventuellement essayer de le mettre ailleurs, mais on ne peut pas, de toute façon, ça ne sera jamais
la l'origine. Traduction, c'est le travail qui vient d'ailleurs et va
ailleurs.
Oui.